Enraciné et édifié en lui, par Marc Tapernoux, édition 1964. Avant-propos. Les lèvres du juste en repaissent plusieurs, Proverbe 10, verset 21. Au cours de mes lectures, j'ai pris l'habitude, depuis quelques années, de noter les pensées qui me paraissaient particulièrement édifiantes, afin de pouvoir les méditer de nouveau ultérieurement. J'en ai recueilli une telle bénédiction qu'il m'a paru utile, après en avoir référé à quelques frères expérimentés, de publier ces notes dans l'idée qu'elles pourraient être utiles à d'autres personnes. Afin de rendre la lecture de ces pensées aussi profitable que possible, je les ai groupées par sujet. Puisse ce recueil contribuer à affermir la foi du lecteur et l'aider à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Berne, septembre 1964, Marc Tapernoux. Première partie, l'amour de Dieu. L'on ne peut avoir en Jésus une foi réelle sans aimer sa personne, parce qu'il est la pleine expression de l'amour de Dieu, amour dont la perfection ne se trouve nulle autre part. Christ s'est abaissé au plus bas, afin qu'il n'y eût aucun être humain, fût-ce le plus misérable, qui ne sentît que Dieu était près de lui en bonté, entièrement accessible pour lui, venu jusqu'à lui. L'amour de Dieu a ainsi trouvé dans la misère de l'homme l'occasion de son parfait exercice, l'occasion de montrer qu'il n'y a aucun besoin où il ne se trouve pas présent et auquel il ne puisse répondre. Nous avons besoin d'être constamment renouvelés, sinon l'énergie spirituelle ne se maintient pas. Ce n'est pas le progrès dans la connaissance qui opère ce résultat. Ce qui importe, c'est que nous demeurions près de Dieu. C'est là que l'amour, son amour agissant dans nos âmes, se maintient et se développe. Si nous connaissions un peu plus la consolation et la joie qu'il y a à nous désaltérer à la plénitude de l'amour de Dieu, nous sentirions que les circonstances sont le néant même. Il y a, dans l'essence divine, deux perfections infinies que l'Esprit-Saint résume de la manière suivante. Dieu est amour, Dieu est lumière. Ces deux côtés de sa gloire ne doivent pas être confondus et sont aussi importants l'un que l'autre. Chacun d'eux a sa manifestation dans les actes et les voies de Dieu envers l'homme. L'amour de Dieu prend envers lui le caractère de grâce à cause de son état de péché qui rend nécessaire le déploiement de cette grâce. La lumière se manifeste dans une sainteté infinie qui repousse le mal et le juge. La croix a été la manifestation parfaite de ces deux aspects de la gloire de Dieu. Elle a permis à Dieu de sauver le pécheur en ôtant le péché par la mort expiatoire du Rédempteur. Reçue par la foi, la vie nouvelle communiquée par le Saint-Esprit aux croyants a les caractères de sa source. Elle vient de Dieu. Elle aime, prouvant ainsi son origine divine. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, verset 7. L'amour est donc le fruit et la manifestation de la nature divine qui, en nous, a les mêmes caractères qu'en celui qui en a été ici-bas l'expression parfaite. L'autre caractère fondamental de la nature divine, la lumière, fait des rachetés des enfants de lumière, appelés à manifester cette lumière dans les fruits qu'elle produit. Or le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Éphésiens 5, verset 9. Mon fils était perdu et il est retrouvé. Voilà le cœur de la parabole de Luc 15. Il n'est pas question de ce que le fils a souffert, mais de ce que le père a perdu. C'est lui qui souffre, c'est lui qui perd. Une brebis est perdue. Qui en supporte la perte? Le berger. Une pièce d'argent est perdue. Qui en supporte la perte? La femme. Un fils est perdu. Qui en supporte la perte? Le père. Deuxième partie. Christ. Point 1. Sa personne. Le Fils de l'homme est un titre d'une signification très étendue. Il exprime l'homme dans sa perfection, un homme selon Dieu. Il nous dit, en quelque sorte, que l'homme se tient comme un être nouveau en Jésus, et qu'en lui se voit la beauté humaine et morale dans toute sa plénitude. Mais ce n'est pas seulement toute cette perfection morale qui est exprimée dans ce titre de « Fils de l'homme ». Ce sont toutes ses souffrances et toutes ses gloires se rapportant à lui comme tel. Comme fils de l'homme, il fut humilié, psaume 8. Mais comme tel, il est aussi exalté à la droite de la majesté dans le ciel, psaume 80. Comme tel, il n'avait pas un lieu où reposer sa tête, Luc 9, verset 58. Mais comme tel aussi, il vient à l'ancien des jours pour prendre le royaume, Daniel 7, verset 13. Luc 9, verset 58. Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Daniel 7, verset 13. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Le jugement lui est donné comme tel. Jean chapitre 5. Il est prophète, sacrificateur et roi comme tel, héritier et seigneur de toutes choses, tête et époux de l'Église. Comme fils de l'homme, il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Matthieu 9, verset 6. Et il est le seigneur du sabbat. Marc 2, verset 28. Bien qu'il doive rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, verset 40. Matthieu 9, verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Marc 2, verset 28. De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. Matthieu 12, verset 40. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Comme Fils de l'homme, il était le semeur fatigué, et il sera, comme tel, le glorieux moissonneur de la moisson. Il a été crucifié et ressuscité comme tel. Matthieu 17, verset 9.
Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. »
Matthieu 17, versets 22 et 23.
Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour il sera ressuscité. » Et ils furent fort attristés.
Mais comme Fils de l'homme, il avait constamment sa propre place dans le ciel. Jean 3, versets 13 et 14.
Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et comme le Fils de l'homme, il est le centre de toutes choses, célestes et terrestres. Jean 1, verset 52. En vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Ainsi, ce titre du Seigneur a une portée très étendue et très élevée. Il se lie étroitement à sa personne avec toutes ses douleurs, mais aussi avec toutes ses dignités, excepté naturellement ce qu'il possède en lui-même, comme étant Dieu sur toutes choses béni éternellement. Il est l'homme oint, le temple humain sans souillure, élevé au commencement par le Saint-Esprit, puis rempli par lui. Luc 1, verset 35. Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. »
Luc 4, verset 1.
Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain, et fut mené par l'Esprit dans le désert.
Il est l'homme abaissé qui chemina dans la douleur ici-bas jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2. Il est l'homme exalté, couronné maintenant de gloire et d'honneur, et qui bientôt aura tout pouvoir. Hébreux chapitre 2.
Le chef du monde vient, et il n'a rien en moi.
Homme parfait, descendu du ciel pour accomplir la volonté de Dieu, Christ a marché au milieu de la souillure de ce monde sans en être atteint. Il a subi tous les assauts de l'ennemi et la haine des hommes. Il est arrivé au terme de sa course dans ses perfections absolues, aussi propre pour rentrer dans la gloire que lorsqu'il la quitta, sans avoir besoin de passer par la mort. Le Seigneur Jésus est en lui-même le résumé de toutes les beautés et de toutes les perfections possibles. Dans quelque relation que notre bien-aimé Seigneur nous soit présenté, quelque office qu'il remplisse, quelque œuvre qu'il accomplisse, quelque position qu'il occupe, ses gloires personnelles rayonnent de tout leur éclat divin. Le Seigneur Jésus ne fut jamais plus visiblement présenté comme le Saint de Dieu que lorsqu'il fut fait péché sur le bois maudit. L'odieux et la noirceur de ceux avec quoi il était identifié sur la croix ne servaient qu'à faire ressortir plus clairement qu'il était très saint. Quoique portant le péché, il était sans péché. Quoique endurant la colère de Dieu, il était les délices du Père. Quoique privé de la clarté de Dieu, il habitait dans le sein du Père. La vision de Jésus crucifié, la vision de Jésus ressuscité et glorifié, voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qui produira dans notre vie des fruits bénis, des œuvres bénies. C'est en contemplant Christ que nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Que cette vision nous soit donnée et que nous puissions refléter quelque chose de sa lumière. Au ciel, tout regard sera fixé sur Jésus, tout cœur sera occupé de Jésus, le seul cri éternel, universel et unanime sera « Tu es digne ». Dans le Christ Jésus.
Autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui, et en lui l'amène à la gloire de Dieu par nous.
Il n'y a pas de non quand il s'agit de Christ. Tout est oui, tout est divinement établi et fixé. La prérogative de la foi chrétienne consiste en ceci, que tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle offre est concentré dans une personne. C'est ce qui fait sa force, alors que tant d'autres choses ont prouvé leur faiblesse. Elle n'a pas simplement une délivrance, mais un sauveur, non la rédemption seulement, mais un rédempteur. Et quelle différence entre nous soumettre à un ensemble de règles et nous jeter sur un cœur qui bat, entre accepter un système et nous attacher à une personne. Notre bénédiction consiste en ce que nos trésors sont amassés dans une personne qui n'a pas été seulement pour une génération, dans un docteur présent et un seigneur vivant pour toutes les générations successives. Celui qui a été mort, mais qui est présent et vivant pour tous. Dans les relations du Seigneur Jésus avec le monde qui l'entourait, nous le voyons à la fois comme un victorieux, un souffrant et un bienfaiteur. Quelle gloire morale brille dans un tel ensemble! Il a vaincu le monde, refusant toutes ses séductions. Il a souffert de sa part, rendant témoignage contre sa manière de faire. Il lui faisait du bien, en dispensant incessamment le fruit de sa grâce et de sa puissance. Les tentations de ce monde firent de lui un vainqueur, ses souillures et ses inimitiés en firent celui qui souffrait, ses misères en firent un bienfaiteur. Quel concours merveilleux ! Point 2. Son œuvre. Nos sentiments ne sont pas à la mesure de ce que Dieu est envers nous. Tout est absolument accompli. Nous ne pouvons rien ajouter par notre joie ou notre affliction à l'œuvre parfaite de Christ. Ce n'est pas ce que nous pensons de l'œuvre de Christ, mais ce que Dieu en pense qui sauve. Et notre connaissance, par la foi, de ce que Dieu en pense nous donne la paix. Dieu dit aux Israélites en Égypte, « Non pas, lorsque vous verrez le sang, je passerai par-dessus vous, mais, quand je verrai le sang, c'est lui qui a été offensé, c'est lui qui juge, et c'est lui qui a accepté la rançon en justice, comme il l'a donnée en amour. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Christ a fait la paix par le sang de sa croix. Il a tout fait et ne nous a rien laissé à faire, sinon à lui rendre grâce et à le louer. Afin que tout puisse être grâce, Dieu a voulu que ce soit par la foi que nous saisissions le salut, et quoique la foi produise d'immenses effets, elle n'ajoute rien à la chose qu'elle croit. Christ et l'efficacité de son œuvre doivent être et sont devant Dieu tout ce que je suis appelé à croire qu'ils sont avant que je le croie. Tout ce que la mort peut nous faire, c'est de nous retirer de la scène où elle exerce sa puissance pour nous faire entrer dans celle où elle n'a aucune puissance. Au lieu de craindre la mort, nous rendons grâces à celui qui nous a donné la victoire par Jésus. La puissance de Dieu lui-même, telle qu'elle a agi en Christ lors de sa résurrection, opère en nous pour nous donner la nouvelle position dans la vie. Cette vie implique, par le fait même que nous la recevons, que nous sommes pardonnés parfaitement et pour toujours. Nous étions sous le poids de nos péchés et morts dans nos péchés. Christ s'est placé sous ce poids et il est mort pour nous. En ressuscitant, Christ a laissé derrière lui la mort et le poids de la condamnation sous laquelle nous étions. Nous aussi, nous avons été ressuscités avec lui. Nous avons donc, comme lui, et avec lui, laissé tout ce poids de péchés et de condamnation derrière nous avec la mort dont nous avons été délivrés. Ainsi, Dieu nous fait sortir de la mort et de la condamnation avec Christ qui les a subis pour nous. Quelle valeur a, pour Dieu, le sang de l'agneau, qui, sur la terre, pourrait décrire la puissance sanctifiante et rédemptrice du sang de Jésus? Il délivre le pécheur de l'esclavage du monde et du péché et justifie Dieu quand il fait miséricorde. Il est le fondement de toutes nos bénédictions terrestres et nous donne droit aux plus riches bénédictions célestes. Il nous a ouvert l'accès au trône du Père et nous rend propres pour y paraître comme des enfants bien-aimés. Il a déchiré le voile et ouvert à l'adorateur le lieu très saint. Il répond aux exigences les plus élevées de Dieu, comme aux besoins les plus profonds de l'homme. Seul un homme altéré connaît la valeur de l'eau, et seule une âme altérée connaît la valeur de l'eau vive. Tout ce qu'il y avait à faire, Dieu lui-même l'a fait, et assurément il ne condamnera pas sa propre œuvre. La justice qui était requise, Dieu lui-même l'a fournie. Lui, certainement, n'y trouvera aucun défaut. Voir, des yeux de la foi, Jésus cloué à la croix et assis sur le trône est quelque chose qui doit donner à la conscience une paix solide et au cœur une parfaite liberté. Nous pouvons regarder dans la tombe et la voir vide. Nous pouvons regarder le trône en haut et le voir occupé et continuer notre chemin tout joyeux. Un Christ ressuscité est la preuve éternelle d'une rédemption accomplie, et si la rédemption est un fait accompli, la paix du croyant est une vraie et stable réalité. Nous n'aurions qu'une idée bien incomplète du mystère de la croix si nous n'y voyons que ce qui répond aux besoins de l'homme comme pécheur. Il y a, dans la mort de Christ, des profondeurs qui sont hors de la portée de l'homme et que Dieu seul a pu sonder. Aucun homme ni aucun ange ne peut sonder jusqu'au fond le mystère de la mort de Christ, mais nous pouvons en discerner au moins quelques caractères qui, à eux seuls, rendent déjà cette mort précieuse au-delà de toute expression pour le cœur de Dieu. C'est de la croix que Dieu recueille sa plus riche moisson de gloire. Il n'aurait pu, d'aucune autre manière, être glorifié comme il l'a été par la mort de Christ. C'est dans l'abandon volontaire que Christ fait de lui-même à Dieu que la gloire divine reluit dans tout son éclat, et c'est dans cette offrande que Christ a faite de lui-même que fut posé le solide fondement de tous les conseils divins. La création était insuffisante pour cela. Christ a tellement pris la place du croyant sur la croix, celui-ci était si entièrement identifié avec lui, tous les péchés du croyant lui ont été alors si complètement imputés que toute question de culpabilité du croyant, toute idée de jugement ou de colère, auquel il serait exposé, est éternellement mise de côté. Tout a été réglé sur le bois maudit, entre la justice divine et la victime sans tache. Et maintenant, le croyant est aussi absolument identifié avec Christ sur le trône que Christ fut identifié avec lui sur la croix. La justice n'a plus aucun grief à élever contre le croyant, parce qu'elle n'a aucun grief à élever contre Christ. Il en est ainsi à jamais. Le sang de Christ est la base de tout. C'est le principe de la justice de Dieu, en justifiant un pécheur impie qui croit au nom du Fils de Dieu. Et c'est le principe de la confiance du pécheur pour s'approcher d'un Dieu saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu serait juste en condamnant le pécheur, mais, par la mort de Christ, il peut être juste et justifier ceux qui croient, un Dieu juste et sauveur. C'est par le sang, et rien que par le sang, que nous obtenons le pardon, la paix, la vie, la justice. En tant que dernier Adam, Christ est la somme totale de l'humanité. En tant que second homme, il est la tête d'une nouvelle race. Nous trouvons donc ici une double union. L'une est liée à sa mort, et l'autre à sa résurrection. En premier lieu, Son union avec la race en tant que dernier Adam a commencé historiquement à Bethléem pour se terminer à la croix et au tombeau. Par elle, il a englobé en lui-même tout ce qui était en Adam pour l'apporter au jugement et à la mort. En second lieu, notre union avec lui en tant que second homme commence à la résurrection pour se terminer dans l'éternité, ce qui signifie pour ne jamais se terminer, car ayant dans sa mort mis de côté le premier homme en qui le dessein de Dieu avait été frustré, il est ressuscité comme la tête, le chef d'une nouvelle race d'hommes en qui ce dessein sera pleinement réalisé. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus fut crucifié sur la croix, il fut crucifié comme le dernier Adam. Tout ce qui était dans le premier Adam fut rassemblé et mis de côté en lui. Nous y étions compris. En tant que dernier Adam, il a effacé la vieille race. En tant que second homme, il introduit la race nouvelle. C'est dans sa résurrection qu'il s'avance comme le second homme, et là aussi nous y sommes compris. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, c'est-à-dire par la conformité à sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection, c'est-à-dire par la conformité à sa résurrection. Romains 6, verset 5. Nous sommes morts en lui, le dernier Adam. Nous vivons en lui, le second homme. La croix est ainsi la puissance de Dieu qui nous fait passer d'Adam en Christ. C'est le juge lui-même qui a pris sur lui nos péchés et a subi à notre place le châtiment que nous avions mérité. Comment pourrait-il anéantir sa propre œuvre expiatoire ? Nous avons donc toute assurance pour le temps présent et pour le jour où nous serons manifestés devant le tribunal de Christ. Celui-même qui siégera sur le trône reconnaîtra, en ses heureux élus, sa propre image et ses propres perfections. À la croix, toutes les exigences de la sainteté divine ont été parfaitement satisfaites, en sorte que, mieux nous comprenons cette sainteté, mieux aussi nous apprécions la croix. Plus nous estimons la sainteté, plus aussi nous estimerons l'œuvre de la croix. Christ, ayant la vie en lui-même, est descendu ici-bas et a satisfait à toutes les conséquences du péché de l'homme, quelles qu'elles fussent. En se soumettant à la mort, il détruisit celui qui en avait l'empire et devint, en résurrection, la vie et la justice de tous ceux qui croient en son nom. Il est impossible désormais que Satan porte atteinte à cette vie, soit dans sa source, soit dans son canal, soit dans sa puissance, soit dans sa sphère, soit dans sa durée. Dieu en est la source, Christ ressuscité le canal, le Saint-Esprit la puissance, le ciel la sphère, et l'éternité la durée. Là où le Christ ressuscité introduit son peuple, la mort n'existe pas. Ne l'a-t-il pas aboli ? La parole de Dieu nous le déclare. Christ a fait disparaître la mort de dessus la scène et y a introduit la vie. Ce n'est donc pas la mort, mais la gloire que le chrétien a devant lui. La mort est derrière lui pour toujours. Quant à l'avenir, tout est gloire, gloire sans nuage. La parole nous enseigne que Dieu a fait le premier pas vers l'homme, que ce premier pas a conduit le Seigneur à la croix, que par elle seule l'homme commence à lui être agréable. Tel est donc notre point de départ pour venir après lui. En Christ, tout est infailliblement assuré pour la gloire de Dieu et la bénédiction éternelle de l'homme. Le dessein éternel de Dieu est, d'établir Christ comme chef sur toute chose. Il n'y a pas une seule chose dans laquelle le premier homme a manqué que le second ne restaure. Tout est établi sur une base nouvelle en Christ. Il est le chef de la nouvelle création, héritier de toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob au sujet du pays, héritier de toutes les promesses faites à David concernant le trône. L'Empire sera posé sur son épaule. Il revêtira ses gloires. Il est prophète, sacrificateur et roi. En un mot, Christ restaure tout ce qu'Adam a perdu, et il apporte beaucoup plus que tout ce qu'Adam a jamais possédé. Le Seigneur Jésus était le Fils unique, et en tant qu'unique, il n'avait pas de frère. Mais le Père envoya le Fils, afin que l'unique devienne le premier-né, et que le Fils bien-aimé ait beaucoup de frères. Nous avons là toute l'histoire de l'incarnation et de la croix. Et là, nous trouvons enfin l'accomplissement du dessein de Dieu qui est d'amener plusieurs fils à la gloire. Hébreux 2, verset 10.
Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances.
Il a fait tout ce qui était nécessaire pour que le ciel soit rempli de fils glorifiés. Tel était son dessein dans la rédemption. La croix est la mesure de la haine de Dieu contre le péché, tout comme elle est la mesure de son amour pour le pécheur. Quand le Saint-Esprit déploie devant nos cœurs quelque chose de la profonde bénédiction, du prix et de l'efficace de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous amène à méditer sur le mystère de ses souffrances, à repasser dans nos cœurs tout ce par quoi il a dû passer pour nous, tout ce qu'il lui en a coûté pour nous sauver des conséquences éternelles du péché auquel, hélas, nous nous laissons aller si souvent avec légèreté. Or, c'est là un travail très profond et saint qui conduit l'âme à ces exercices dont les pains d'affliction dans la fête des pains sans levain étaient l'image. Il y a une grande différence entre les sentiments que nous éprouvons en nous occupant de nos péchés et ceux qui proviennent de la vue des souffrances de Christ pour ôter ses péchés. Point 3. La position du croyant en Christ. Christ est là, au ciel, agréé de Dieu à cause de l'œuvre qu'il a accomplie, et c'est là ce qu'il me faut. La justice a été montrée en ceci, savoir que Christ est assis à la droite de Dieu. Dieu l'a pris hors du monde, il m'en sort aussi et me dit, « La justice est là, à ma droite. » Là est ma justice. Ensemble avec Christ, sur la croix, dans le tombeau et dans les lieux célestes. Ainsi, le Seigneur glorifié peut partager avec tous les croyants la victoire de sa croix, la puissance de sa résurrection et la plénitude de sa vie glorieuse. Être en Christ, c'est être là où Christ se trouve, c'est être ce qu'il est, c'est partager ce qu'il possède. Être en Christ, c'est être dans les lieux célestes. Ce n'est donc que dans les lieux célestes que le chrétien est vraiment chez lui. Il est pèlerin sur la terre, sa patrie est le ciel. Être en Christ, c'est être ce qu'il est. Christ est la tête. Le chrétien est l'un des membres du corps. Tête et corps ont une seule et même vie. Ainsi, la même vie anime Christ dans les lieux célestes et le chrétien sur la terre. Être en Christ, c'est avoir part aux richesses de Christ. Tout ce qu'il possède, nous le possédons aussi. Toutes les bénédictions spirituelles, la joie, la paix, la victoire, la puissance, la sainteté sont à nous en Christ dès cet instant. Enfants de Dieu, nous sommes ses héritiers, co-héritiers de Christ, de sorte que tout ce que le Père a donné au Fils, le Fils le partage avec nous.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.
Éphésiens 1, verset 3.
Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui?
Romains 8, verset 32. Nous sommes élus en Christ avant la fondation du monde. Nous appartenons, dans les conseils de Dieu, à un système établi par lui en Christ avant que le monde existât, système qui n'est pas du monde quand celui-ci existe et qui subsistera après que la figure de ce monde aura passé. Notre place en Christ nous a été donnée avant que le monde existât.
Dieu nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles, mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ.
De Timothée 1, versets 9 à 10.
L'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles.
Tite 1, verset 2. Nous avons une vie, mais c'est en Christ. Cette vie est cachée avec lui, en Dieu, en sûreté dans son éternelle source. Elle a le sort de Christ en qui nous la possédons. Il est caché en Dieu, ainsi aussi est notre vie. Quand Christ apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui. Compter sur le Seigneur toujours présent, c'est la sainteté. Cette grâce de la foi est la chaîne qui lie l'âme à Christ et fait que le Sauveur et le Racheté font un. Un canal est alors ouvert, par lequel la plénitude de Christ est répandue abondamment en nous. Le sarment stérile devient une portion du cep fécond. Une seule et même vie circule dans la plante entière. Ne cherchons rien hors de Christ, mais réjouissons-nous d'être nous-mêmes en lui, un avec lui et par conséquent, un avec toute sa plénitude. N'attendons pas que la foi produise la sainteté, mais réjouissons-nous de la parfaite sainteté en Christ comme d'un fait. Réalisons qu'étant un avec lui, d'une manière inséparable, cette sainteté est la nôtre, et, acceptant ce fait, nous en constaterons la réalité. Je n'ai pas à faire de moi un sarment, je le suis du moment que Jésus me le dit. Je suis une partie de lui-même. À moi de croire et d'agir en conséquence. Je suis un membre de Christ et je puis prendre de sa plénitude tout ce dont j'ai besoin. Quelle chose merveilleuse d'être réellement un avec un Sauveur ressuscité et glorieux, d'être un membre de Christ. Pensons à ce que cela implique. Christ peut-il être riche et moi pauvre? La tête peut-elle être bien nourrie et le corps mourir de faim? Toutes les choses qui nous rendront heureux dans le ciel, nous les possédons dès maintenant. Si vous désirez savoir ce qui rend un chrétien heureux dans la vie et dans la mort, c'est le fait que le Christ qu'il possède aujourd'hui est le même Christ qu'il aura dans le ciel. Il est chez lui, là où celui qu'il aime et connaît le mieux se trouve déjà. Il n'est pas possible que le chef et les membres soient acceptables dans des mesures différentes. La tête et les membres sont un. Dieu les tient pour un. Par conséquent, ils sont un. Cette vérité est à la fois le fondement de la confiance la plus haute et de l'humilité la plus profonde. elle donne la plus entière certitude, toute assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, verset 17. Attendu qu'il est impossible qu'il soit mis quoi que ce soit à la charge de celui auquel nous sommes unis. 1 Jean 4, verset 17.
Quand ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde.
Et elle nous donne un profond sentiment de notre néant, attendu que notre union avec Christ est fondée sur la mort de la nature humaine et sur l'abolition complète de tous ses droits et de toutes ses prétentions. Il y a dans notre cœur une tendance continuelle à faire reposer notre paix et notre acceptation sur quelque chose qui est en nous ou qui vient de nous, bien que nous admettions que ce quelque chose soit un fruit du Saint-Esprit. De là vient que nous regardons constamment en nous-mêmes, tandis que le Saint-Esprit voudrait toujours nous faire regarder en dehors de nous. La position du croyant ne dépend pas de ce que lui est, mais de ce que Christ est. S'étant approché de Dieu, au nom de Jésus, il est identifié avec lui et accepté en son nom, et il ne peut pas plus être rejeté que celui au nom duquel il s'est approché de Dieu. C'est notre heureux privilège de pouvoir, dans la confiance de la foi, renvoyer toute accusation et tout accusateur à Christ et à l'expiation qu'il a accomplie. Tout, pour nous, découle de lui. Nous nous glorifions en lui continuellement. Nous n'avons aucune confiance en nous-mêmes, mais en celui qui a accompli toutes choses pour nous. Nous nous attachons à son nom, nous nous confions en son œuvre. Nos regards sont arrêtés sur sa personne et nous attendons son retour. Inséparablement uni à Christ, le croyant partage nécessairement son acceptation auprès de Dieu et son rejet par le monde. Ces deux choses vont ensemble. La première nous constitue adorateurs et citoyens du ciel. La seconde nous constitue témoins et étrangers sur la terre. La première nous introduit au-dedans du voile, la seconde nous fait sortir hors du camp, et l'une est aussi parfaite que l'autre. La connaissance de notre position absolument parfaite et établie en Christ est la chose même dont le Saint-Esprit se sert pour nous exciter à tendre vers la perfection pratique. Nous ne devons jamais mesurer notre position par notre état, mais, au contraire, toujours juger notre état par notre position. Abaisser la position à cause de l'état, c'est donner le coup de mort à tout progrès dans le christianisme pratique. Le croyant est mort au péché. Comment ? Il est mort en Christ. Par nature, il était mort dans le péché. Par grâce, il est mort au péché. Quel droit peut-on avoir sur un homme mort? Aucun. Christ est mort une fois pour toutes au péché, et le croyant est mort en lui.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu.
Romains 6, versets 8 à 10. Que résulte-t-il de tout cela pour les croyants?
De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus.
Verset 11. Telle est devant Dieu la position inaltérable du croyant, de sorte qu'il a le saint privilège de jouir de la délivrance du péché en tant que dominateur sur lui, quoique le péché habite encore en lui. Le chrétien possède la nouvelle nature qui ne peut aucunement produire les fruits de la vieille nature. Christ ne pèche pas, sa vie en nous ne peut pécher. Celui qui demeure en lui ne pèche pas.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu.
1 Jean 3, verset 9. Comment Jésus nous donnerait-il ce commandement ?
Demeurez en moi, sans nous assurer la grâce et la puissance de le faire.
La vie en Christ est une source inépuisable de bonheur. À mesure que Christ prend plus pleinement possession de l'âme, elle entre dans la joie de son Sauveur qui devient la sienne à toujours. La joie est un trait caractéristique de celui qui vit en Christ, et nous savons tous en apprécier la valeur. Elle est la meilleure preuve que le cœur est réellement satisfait. Aussi n'y a-t-il pas, chez les chrétiens, d'attrait plus irrésistible, de prédication plus persuasive, et qui manifeste mieux au monde la réalité de l'amour divin que le rayonnement de cette joie, triomphant des épreuves de la vie. Pour le bien même du croyant, elle est un élément indispensable, car la joie du Seigneur est sa force. En elle se retrempe sa confiance, son courage et sa patience. Avec un cœur joyeux, aucun travail ne lasse, aucun fardeau n'accable, et Dieu lui-même est notre force et notre champ de victoire. Point 4. Christ en vous. Dans la pensée de Dieu, Christ et le chrétien sont tellement unis que Christ est à la fois dans les lieux célestes et sur la terre, et que le chrétien est à la fois sur la terre et dans les lieux célestes. Le chrétien sur la terre, c'est Christ rendu visible. Nous devons donc avoir une telle plénitude de la vie de Christ que ceux qui le discernent en nous se sentent attirés à lui. Christ est en moi. D'abord, j'ai été crucifié avec Christ. Ensuite, Christ vit en moi. C'est sur un trône dont le moi a été chassé que le Christ veut monter. Être chrétien, c'est faire de Christ le centre de sa vie, c'est être transformé à l'image de Christ, de gloire en gloire et de jour en jour. Être chrétien signifie que Christ anime notre esprit, notre cœur, notre volonté, de telle sorte qu'il pense par notre esprit, qu'il aime par notre cœur, qu'il exprime sa volonté par la nôtre. C'est laisser Christ occuper tant de place en nous que nous n'ayons plus aucune vie en dehors de lui. Christ, qui est la source de notre vie, qui est notre vie, en est aussi l'objet. C'est ce qui caractérise toujours la vie de Christ en nous. Lui-même en est l'objet, lui seul. Christ est personnellement l'objet dont la vie se nourrit. Il est tout revêtu à nos yeux de l'amour qu'il nous a montré dans sa mort. Nous vivons par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et s'est donné pour nous. La conscience de notre relation avec Christ s'applique à tout. Rien ne se fait sans lui. Il est présent comme le premier mobile de nos actes et ce qui leur imprime leur vrai caractère, et le cœur est occupé de lui en les accomplissant. Tout se rapporte à lui. Nous ne mangeons pas sans lui, nous ne buvons pas sans lui. Ce que nous disons, ce que nous faisons, est dit et fait au nom du Seigneur Jésus. La conscience de sa présence, le sentiment que tout se rapporte à lui, qu'on ne peut rien faire, sinon charnellement, sans lui, parce que la vie que nous avons de lui agit avec lui et en lui, ne se sépare pas de lui, et l'a lui-même pour objet en tout, de même que l'eau s'élève à la hauteur d'où elle est descendue. Voilà le vrai caractère de la vie du chrétien. La nature se confond souvent avec la grâce aux yeux inexpérimentés des hommes, mais la conscience intelligente qu'on a de Christ comme objet du cœur, la conscience de sa présence, du sceau de son approbation, quand on pense à lui, ne se confond avec rien, Rien n'y ressemble, aucune belle apparence n'en peut prendre la place. Quand il se révèle au cœur et que le cœur marche avec lui et s'entretient avec lui, ne cherchant que le regard de sa face, le sceau de sa faveur sur l'âme en toute chose, alors Christ est connu, bien connu. Il n'y a que lui qui se communique ainsi en grâce à l'âme qui marche dans les voies de sa volonté exprimée dans sa parole. Ceux qui sentent le plus profondément qu'ils sont morts en Christ et qu'ils ont subi en sa personne le châtiment du péché atteignent les plus hauts sommets de la vie divine. Celui-là est le plus saint qui possède le mieux Christ au-dedans de lui et qui se réjouit le plus complètement dans son œuvre accomplie. C'est l'imperfection de la foi qui entrave la marche et est la cause de beaucoup de chutes. Dieu ne me donnera pas l'humilité ou la patience ou la sainteté ou l'amour comme des dons de grâce isolés. Il ne détaille pas sa grâce pour nous la distribuer par petites doses, accordant une mesure de patience à celui qui est impatient, un peu d'amour à celui qui n'aime pas, un peu d'humilité à celui qui est orgueilleux, en quantité que nous pourrions recevoir, et sur la base desquelles nous pourrions opérer comme avec une sorte de capital. Il nous a fait un seul don qui répond à tous nos besoins, son Fils Jésus-Christ.
De sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce.
Jean 1, verset 16. Et lorsque je regarde à lui pour qu'il vive sa vie en moi, il sera humble et patient et plein d'amour, et tout ce dont j'ai besoin, à ma place. Il est tout ce que je ne puis et dois être.
Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
1 Jean 5, versets 11 et 12. La vie de Dieu ne nous est pas donnée comme un objet séparé. La vie de Dieu nous est donnée dans le Fils. C'est
la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Romains 6, verset 23. Notre relation avec Christ est notre relation avec la vie. Je refuse d'agir de ma propre volonté. Je dépends de lui pour qu'il agisse, et j'entre ensuite pleinement et joyeusement dans l'action qu'il a commencée. Ce n'est pas de la passivité, c'est une des vies les plus actives que de se confier au Seigneur de cette manière, de tirer de lui la vie, de le prendre pour qu'il soit ma vie même, de le laisser vivre sa vie en moi. Ce qui occupe Christ et ce à quoi il pense, c'est ce qui devrait nous occuper et ce à quoi nous devrions penser. Si Christ est notre vie et, par l'Esprit, la source de nos pensées, nous aurons ces pensées en toutes choses. Nous devons être au milieu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, comme Christ y serait. C'est cela la vie chrétienne. Il n'est jamais nécessaire que nous fassions un mal quelconque, que nous agissions selon la chair. Bien qu'elle soit là, nous n'agirons pas sous son impulsion si nous sommes pleins de Christ, car c'est lui qui nous suggère nos pensées. Devenir la possession de Christ signifie bien plus que nous ne pensons au premier abord. Christ possède-t-il mon corps, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mes mains et mes pieds? Possède-t-il toutes mes facultés, ma mémoire, mon imagination, mon intelligence? Possède-t-il mes pensées? Mon être entier est-il vraiment à sa disposition pour accomplir sa volonté? Seigneur, pénètre partout où tu voudras dans mon cœur, fais ce qu'il te plaira, tu es ici chez toi. Tout ce qui est indigne de Christ est indigne d'un chrétien. Nous sommes en Christ devant Dieu. Christ est en nous devant le monde. Ces deux choses sont inséparables. C'est l'union avec Christ par le Saint-Esprit, mais envisagée du côté de Dieu, d'une part, et du côté du monde de l'autre.
Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Colossiens 1, verset 27. Il a plu à Christ de nous unir à lui par le Saint-Esprit. nous remplissant de l'espérance d'une chose non encore atteinte, la gloire, que lui-même a atteinte, mais dont l'union avec lui nous donne la certitude absolue.